This is CKCU Literary News.
Today, April 22, 2014, as people in Aracataca, a little town in Colombia, where Gabriel Garcia Marquez was born in 1927, are commemorating the Nobel Prize-winning author who died April 17th in Mexico City. Well, at this very moment, when both the Mexican and the Colombian president are honoring the great writer in the cathedral on Bolívar Square in Bogotá, I should like to say myself adios, as well on behalf of all of us here at CKCU Literary News. For sure, it won't take us 100 years of solitude, maybe just a couple of weeks, till we will be revisiting him in a special broadcast. Mientras tanto, que se vaya bien, maestro. Et maintenant,
voici de Montréal.
Une émission consacrée à la nouvelle littérature québécoise, fiction, poésie et essais, une coproduction du webzine La Recrue du Mois.
Et de CKCU Literary News, réalisée par
Lucie Renaud
et Hanske Orger-Ruprecht.
Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission des actualités littéraires sur CKCU. Lucie Renaud au microphone. Je m'entretiens aujourd'hui avec Samuel Archibald, porte-parole de la 19e Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui se tient le 23 avril, de Rivière-du-Loup à Sudbury, en passant par Québec à Montréal, comme l'annonce l'affiche, et qui, en fait, plus de 300 activités sont prévues tout au long de cette journée. Samuel Archibald, bonjour.
Bonjour.
Alors, la thématique « Affichez-vous avec votre livre ». Donc, on demande aux gens de se présenter dans différents événements. Oui. Le livre sous le bras, donc est-ce que ça devient comme un accessoire de mode ce matin-là qu'il faut vraiment choisir adéquatement quel livre on met?
Absolument. Ben je pense qu'il faut toujours choisir avec beaucoup de soin le livre qu'on porte avec soi de toute façon. Ce que j'aime bien avec ce thème-là cette année, j'aime toujours un peu avoir mon mot à dire dans le choix du titre. Donc affichez-vous avec votre livre, comme je le disais un peu sur dans mon mot sur le site de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. J'aime ça parce que ça nous permet de temps en temps de se transformer littéralement en femme sandwich, en homme sandwich de nos lectures et de valoriser. Pour moi, il y a un thème sous-jacent, pour moi, qui est un peu celui de la bibliodiversité, dont on a beaucoup parlé autour de la question du prix unique, du prix réglementé, justement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste, dans ces causes-là, de défendre les ventes de livres, justement, et donc d'encourager la réglementation du prix du livre, mais bien sûr, d'encourager aussi que de plus en plus de lectrices, de lecteurs lisent de plus en plus de livres différents. Et moi, je tiens beaucoup à cet aspect-là, parce que je trouve que, bien souvent, quand on interagit avec différents médias, souvent avec les médias traditionnels, entre autres, on a l'impression que avec les chiffres qu'on lance dans les airs autour de J.K. Rowling, par exemple, ou de 50 Shades of Grey, on a l'impression que le livre comme industrie est en santé parce qu'on vend des gonzillards de copies de la même bluette sadomasochiste, tu sais, anglaise, alors que pour moi, tout ça est un peu une fausse santé, c'est-à-dire qu'on sort des chiffres comme ça, hallucinants, mais je veux dire, une planète où tout le monde lit la même maudite affaire, parfois très bonne, comme dans le cas des Harry Potter, parfois pas mal moins bonne, comme dans certains autres cas, je ne nomme pas de nom. Pour moi, c'est ça, c'est pas une vraie santé, et la santé, elle joue beaucoup au niveau de cette bibliodiversité-là.
Alors, pour vous, la paralittérature et la littérature, avec un grand L, si on veut, peuvent se côtoyer et devraient même jusqu'à
oui, ben moi, côtoyer. Oui, ben moi, c'est Duke Ellington qui disait il y a deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise. Mm-hmm. Pour moi, ça vaut aussi avec la littérature. Mais ce que j'essaie souvent de faire dans des activités comme ça, c'est de valoriser, ben, d'une part, la littérature québécoise, la littérature canadienne d'expression francophone, c'est-à-dire qu'on oublie souvent, justement, dans ce jeu-là, souvent du rabais de la promotion, c'est-à-dire on est bien bon pour lire à peu près souvent bon des livres américains traduits à Paris, des fois c'est assez hallucinant. Donc moi c'est quelque chose que je traite souvent par exemple avec mes étudiants en création littéraire, de dire des fois on a tendance à écrire, à penser que les livres doivent être écrits dans cette langue-là, donc la langue parisienne pour parler de réalité nord-américaine, canadienne, québécoise, ce qui m'a toujours un peu gossé honnêtement parce que je veux dire, dans un livre traduit à Paris, un skidoo c'est un scooter des neiges par exemple, oui, et donc ça me renverse parce que bon
ou leur compréhension du baseball qui est
oui
souvent
ben, les passages de baseball sont
et dans, le hockey on n'en parle pas
ben le hockey c'est comme ça pourrait être aussi bien du patinage, on a l'impression qu'ils sont sur un étang en plein milieu de la forêt, donc il y a toujours un peu cette idée là de dire de quel droit prenez-vous des mots qui n'existent pas pour nommer des réalités qui m'appartiennent. J'ai toujours eu un peu ce côté chatouilleux là, donc pour moi c'est vraiment beaucoup de recentrer là-dessus, c'est-à-dire non seulement lire, mais aussi qu'est-ce qu'on lit, pas d'un côté haute et basse littérature ou littérature et paralittérature, mais littérature d'où, bien souvent, littérature de quel genre. Donc, j'aime beaucoup souvent remplacer un livre par un autre, faire des suggestions. Donc, si vous êtes un amateur de, si vous avez lu telle chose, bon, essayez donc tel autre pour suivre les mêmes thèmes, mais peut-être rafraîchir la liste de lecture, justement.
Tout à fait. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait inclure dans les bottes critiques, en fait, même. Si oui, vous avez aimé, vous aimerez aussi.
Oui, mais ça marche très bien pour s'inspirer de modèles numériques, justement. Quand on parle de grands sites comme Amazon, c'est quelque chose qui marche très, très bien souvent sur les sites de vente en ligne. Surtout quand on fait beaucoup d'achats. Moi, j'ai toujours trouvé cet indexage-là assez brillant. C'est-à-dire qu'on a littéralement une mesure de notre goût, de nos tendances. Puis tout à coup, les suggestions, plus on se sert de ce site-là, plus les suggestions deviennent pertinentes. Donc, je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, effectivement, pour amener les gens, à partir des goûts qu'ils ont, des fois à lire ailleurs, à lire plus loin, en fait.
Quelle importance la lecture occupe-t-elle dans la vie de Samuel Archibald?
Elle occupe une place effroyablement importante et à la fois un peu schizophrénique, en fait, parce que je me rends compte... Non, mais j'ai quelque chose de presque... pervers, je dirais, dans mes lectures, pour pas avoir peur des mots, mais c'est que je suis un prof de littérature populaire, donc j'enseigne la culture populaire, la littérature populaire, ce qui fait que j'ai un espèce de rapport très, très théorique, très, très intellectualisé avec ce que les gens lisent à la plage, normalement, donc le roman policier, le roman fantastique, la fantasy, moi je lis ça, je parlais de Game of Thrones ce matin à la radio, moi je lis ça d'un œil très analytique, comment ça marche, comment je peux enseigner ça, comment je peux enseigner comment c'est fait, et donc quand je pars à la plage l'été, je sais pas quoi lire, la plupart du temps je lis des essais très compliqués, je relis Schopenhauer à la plage parce que c'est ça qui finit par me relaxer, ce qui fait de moi une drôle de bébite au niveau de mes lectures, mais comme je suis là-dedans depuis des années, je me rends compte aussi que l'autre perversion, c'est que je me repose de lire en lisant. Donc, je me repose de lire pour mon travail en lisant dans mes loisirs. Donc, tout tourne pas mal autour de la lecture.
Donc, il n'y a jamais de moment de saturation pour vous au niveau de la lecture, si je comprends bien.
Non, mais j'ai adopté, des fois, je dis qu'il faut être presque cruel là-dedans. J'ai adopté une espèce de politique. Il y a longtemps dans ma vie, je finissais systématiquement tous les livres que je lisais. Là, j'abandonne la page fatidique. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est la page 42. En général, quand j'arrive à la page 42, si je ne suis pas vendu, le livre va aller s'empoussiérer sur les tablettes. Mais ça me permet de survivre un peu au volume de livres que j'ai à lire, parce que quand même, c'est ça, avec le travail d'enseignant, plus celle d'animateur culturel, un peu tout ça, je me tiens beaucoup au courant de ce qui sort au Québec. Tout ça, ça fait que la pile, elle est vraiment haute. Et donc, des fois, pour survivre, faut être capable de faire des choix un peu déchirants.
Tout à fait. Alors, on parle de littérature québécoise, évidemment, qui est au cœur de la mission de la Recrue du mois, de défendre le nouveau roman québécois. Et bon, on sort d'élections qui ont, disons, peut-être chatouillé certaines personnes plus ou moins positivement, et certainement où la culture n'a pas été abordée. Jusqu'à quel point, pour vous, c'est essentiel de s'approprier notre littérature?
Ben pour moi, c'est très, très important. Bon, j'en parlais déjà avec ces élections-là. On n'a pas parlé de culture et on a l'impression que, bon, le projet, justement, de réglementation du prix du livre va être un peu tabletté, qu'on n'en entendra plus beaucoup parler non plus. À moins d'une surprise, on peut toujours l'être, effectivement. Mais je pense qu'autour de toutes ces questions-là, quand je disais, bon, la question de la bibliodiversité, la question du prix unique, elle tourne beaucoup autour de cette question-là, c'est-à-dire dans un petit pays gaulois qui résiste à l'environnement très anglophone, je veux dire, protéger la bibliodiversité, c'est littéralement protéger la culture québécoise, c'est-à-dire à un moment. Si l'écrémage se fait, si la sélection se fait et on lit de plus en plus la même chose, ben ça risque d'être de moins en moins de la littérature québécoise, bien souvent. Fait que pour moi, c'est très important de travailler dans ce sens-là, puis d'avoir vraiment souvent un rôle presque d'ambassadeur. Faut vraiment travailler là-dessus, faut vraiment faire la promotion de la littérature québécoise. Je pense qu'on a eu les mêmes questions, par exemple, au cinéma. C'est-à-dire, si on se replie trop rapidement et trop confortablement sur nos petites cliques, autant de lecteurs que d'auteurs, ben souvent, c'est la culture qui étouffe, en fait.
Mm-hmm. Tout à fait. On parlait tout à l'heure d'hommes sandwich pour la littérature et de femmes sandwich. J'aime bien l'idée. En fait, on devrait peut-être avoir cette journée-là un format géant de notre couverture de livre. Mais est-ce que, disons, dans une foule hétéroclite, vous avez des gens qui liraient de la littérature québécoise et d'autres de la littérature, disons, populaire américaine, est-ce que vous seriez plus porté à aller parler à ceux qui lisent un livre de littérature québécoise?
Ben peut-être, ouais, peut-être que oui, j'imagine. En même temps, j'ai mes grands auteurs américains favoris aussi, ça fait que tu sais, je veux pas être sur un mode de discriminant par rapport à ça, mais tout à coup, ça devient beaucoup plus personnalisé, bien souvent. Puis je le vois, ne serait-ce que avec des amis, je le vois avec mes enfants aussi. C'est drôle, comme je fais beaucoup la tournée des salons du livre, là, j'ai fait signer tous les Geronimo Stilton de ma plus vieille fille par Geronimo Stilton lui-même, qui bien sûr, oui, bien bon, sûr. Cache une vraie personne, là, c'est pas une souris géante. Mais il y a ce côté-là, je pense que ce qui est agréable avec ce côté-là, c'est le côté très personnalisé de l'affaire. Bon, on le voit, bon, ça va être le Salon du Livre de Québec en fin de semaine. Il y a quelque chose dans ce lieu-là qui permet de dire, si je vois quelqu'un qui lit un livre québécois, je connais cette personne-là, vous devriez aller la voir, vous devriez aller la rencontrer, elle est très sympathique ou pas, des fois,
oui, ce
c'est
là,
une personne, c'est ça, à ce moment-là, on le dit pas, mais pour moi, il y a quelque chose de toujours assez fascinant là-dessus, j'ai le goût de poser la question aux gens, et j'en parlais dans mon mot, c'est-à-dire voir les gens lire dans les transports en commun, entre autres, de les dire, ah, comment vous trouvez ça, est-ce que c'est la première fois que vous lisez cette personne-là, bon, etc., etc., et un jour, je le souhaite, parce que pour moi, c'est ma grande malédiction, j'en parlais dans le mot, je n'ai jamais vu quelqu'un lire un de mes livres dans le métro ou dans l'avion. Et c'est vraiment une malédiction, comme je le disais. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'écrivent, il y a des gens qui prennent en photo dans l'avion. J'ai reçu des textos, dire je suis à côté de quelqu'un qui lit Arvida, je suis à côté de quelqu'un qui lit Le sel de la terre. Moi, ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé. Et donc, je pense, comme je le disais, que les dieux de la littérature aiment pas les égos surdimensionnés, parce que je me sens vraiment fouetté par le destin par rapport à ça, parce que quand même, j'en ai vendu quelques-uns. c'est pas comme si mes livres avaient mal marché, mais moi, jamais j'ai eu ce plaisir-là jusqu'à aujourd'hui.
Mais peut-être que la sortie en poche, justement, d'Arvida va permettre de retourner la tendance, et que là, ça va être plus facile à apporter dans les transports en commun, et donc peut-être dans les prochains mois, verra un
ou
l'autre.
Oui, absolument, et c'est tout le bonheur que c'est tout le bonheur que je me souhaite par rapport à ça. Arvida qui sortait en poche cette semaine, et il y a un jeu, là, il y a le jeu Affichez-vous avec votre livre, mais sur la couverture d'Arvida qui vient de sortir chez Boréal Compact, il y a une photo d'époque d'une équipe de hockey, de l'équipe, je sais pas c'était quoi le nom de l'équipe, mais l'équipe d'Arvida, donc on voit 6 joueurs de hockey ou 5 joueurs de hockey, je me rappelle pas de la coupe exactement, et il y a sur cette photo-là mon grand-père, donc les gens peuvent m'écrire pour me dire lequel qui pense que c'est, parce qu'il est parmi ces joueurs-là. Donc, quiz familial autour de Arvida en poche.
Arvida, qui est en fait une relecture ou en fait une redéfinition d'une certaine façon de ce qu'on associerait au roman du terroir, en fait, qui a été détourné ici.
Ouais.
Et est-ce que ça serait peut-être pas la façon justement de sortir le Québec d'une certaine, pas nécessairement d'une noirceur, mais d'un côté de repli sur soi, de transformer ces histoires-là autrement, comme vous l'avez fait dans Arvida?
Ben, on en a beaucoup parlé comme ça. Je pense que il y a quelque chose d'intéressant justement autour de la question de l'identité. Dans ce qu'on a appelé le néo-terroir ou le post-terroir, etc., c'est beaucoup de redécouvrir des identités qui sont peut-être, qui font partie de l'identité québécoise, mais qui sont peut-être des fois plus petites, plus localisées. Tu sais, il y a tout un moment, à l'époque médiévale, par exemple, où un pays, c'était géographiquement, ça avait la grosseur de ce qu'on appellerait une région aujourd'hui. Moi, je reviens d'Edmundston pour le Salon du Livre, où j'étais dans la région de Madawaska, que je connaissais pas. Et là, tu te fais expliquer ça, puis c'est assez fascinant, parce que c'est pas vraiment des Acadiens, c'est des Brayons. Et il y a les États-Unis juste à côté, il y a le Québec juste à côté. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'accroche, et je pense que c'est ce qui m'accroche avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui fait que je me suis fait un peu par automatisme, le chantre de la région du Saguenay. Mais c'est de dire tout à coup, OK, on a ces grands romans nationaux, ces grands poètes nationaux dans les années 60-70. Tout à coup, on essayait de penser le Québec comme un tout. Et pour moi, la question de réalimenter ce débat-là, c'est d'arrêter de penser le Québec comme un tout, mais comme vraiment une somme de parties. Et là, tout à coup, d'aller s'intéresser, bon, comme le fait mon ami William Messier au canton de l'Est, à l'Estrie, comme je le fais moi au Saguenay, comme Hierjo le faisait il y a un certain temps à l'Abitibi. Là, ça devient intéressant de redécouvrir le Québec pièce par pièce et petite culture par petite culture, parce que bel et bien, au sein de la culture québécoise, tout un ensemble de sous-cultures, on dit roman du terroir, en fait, moi, quand je parle d'Arvida, je parle d'une ville qui est surtout industrielle, donc c'est ce mélange de petite ville industrielle avec la forêt à 2 minutes, qui devient assez intéressante, parce que je trouve que c'est une façon de redécouvrir le Québec. Et ça, je l'ai vu beaucoup avec les lecteurs, à la fois dans la communion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire ces espèces de légendes que je charrie dans Arvida, ils les ont aussi chez eux. Il y a des gens qui m'ont écrit pour dire qu'il y avait aussi un cougar en Gaspésie ou en Abitibi, comme dans mon histoire cryptozoologie. Il y a des gens qui ont écrit pour me dire que, par exemple, leur père ou leur grand-père à l'époque avait aussi un match chez épique de hockey, soit contre les anciens Canadiens ou soit contre les Chevaliers O'Keefe qui a humilié beaucoup d'équipes de balle-molle locales au Québec pendant des décennies. Ça fait que là, tout à coup, on est dans un côté plus communion, justement, c'est-à-dire les gens découvrent que autour de ces spécificités-là régionales, on reconstruit des similarités. Et d'un autre côté, c'est-à-dire autour de ces spécificités-là, on découvre quelque chose que j'aime bien, qui est pour moi une espèce d'exotisme de l'intérieur. C'est-à-dire au lieu de se dire vraiment on est tous pareils presque à la platitude, on découvre ah ben tout à coup ah dans cette région-là vous faites ce genre de trucs-là. Moi je me rappelle de beaucoup de questions autour de à un moment donné dans Vida, je décris par exemple une pratique qu'on fait là-bas, c'est-à-dire qu'on a peur que les plantes bleuets gèlent, on allume des brasiers aux côtés des bleuetières, puis on envoie la boucane comme relever de quelques degrés les pieds de bleuets par terre, puis les sauver du gel comme ça. Et l'image est assez saisissante, puis tout à coup, là, t'es dans quelque chose qui est pour moi un peu à l'apéro, une de mes grandes inspirations, dans quelque chose de presque ethnologique, à dire, là, on documente quelque chose que peut-être collectivement au Québec, on sait pas, mais qui existe en région pour l'ajouter à un patrimoine commun à ce moment-là.
Mais est-ce qu'il faudrait pas, en fait, mettre un peu, justement, de chaleur symbolique sur notre littérature et revoir certains de ces textes-là, et ce qui nous permettrait de s'en émanciper d'une certaine façon?
Les textes du terroir original?
Oui, mais aussi de percevoir la littérature des dernières années comme en évolution, et que, dans le fond, bien sûr, elle est devenue beaucoup plus multiple qu'elle ne l'a jamais été.
Oui, absolument. Ça fait que moi, souvent, je suis un peu dans ce trip-là de faire des vieilles relectures, parce que souvent... c'est le défaut de l'histoire littéraire. L'histoire littéraire a la qualité de pérenniser les textes, de les inscrire dans des continuums, puis de faire qu'ils existent encore dans les notes de bas de page ou le corps du texte des almanachs. Mais souvent, l'histoire littéraire nous empêche d'aller relire. C'est-à-dire, on s'en tient à Maria Chapdelaine, c'est ça, la Squin, c'est ça, par exemple. Puis quand tu retournes dans ces textes-là, bon, il y a des bonnes et des mauvaises surprises, là, tout n'est pas au même niveau, mais souvent tu redécouvres des textes où tu dis la lecture canonique ou la lecture très académique n'est pas la bonne, ça nous parle d'autre chose. Moi, je relisais la Squin d'Albert Laberge récemment, puis je dis c'est du Southern Gothic québécois, ce truc-là. C'est pas du tout du terroir au sens de ça parle tout le monde est bête, tout le monde est méchant, tout le monde est idiot. T'es vraiment pas dans quelque chose comme une valorisation de la campagne, de la bonne vie catholique. Au contraire, t'es dans une caricature très, très grinçante, très, très mordante. Ça fait que je pense que cette redécouverte-là, et par rapport à la littérature québécoise contemporaine, je pense ça commence à s'historiciser, justement. Je pense qu'il y a des papiers qui apparaissent, mais il y a une espèce de consensus qui est en train de s'imposer que depuis, on peut le dater, une dizaine d'années ou peut-être un peu moins, 6-7 ans, il y a quelque chose comme une nouvelle ébullition dans la littérature québécoise qui se construit autour de peut-être de communautés de thèmes comme ça en région, mais aussi de communautés d'auteurs, littéralement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé souvent dans le roman, justement. C'est-à-dire, c'est très propre à la poésie. La poésie québécoise, qui est très en santé, elle, depuis très longtemps, s'est toujours construite autour de communautés très fortes d'auteurs, autour de maisons d'édition. Et là, c'est en train de se faire un peu par rapport au roman québécois. C'est-à-dire, je pense que le champ du roman québécois a jamais été traversé d'autant de parenté, d'amitié aussi, c'est-à-dire de gens soit qui ont les mêmes lectures, soit qui ont eu les mêmes foyers d'études, soit qui ont les mêmes références un petit peu, et qui sont surtout des grands lecteurs les uns des autres. Donc là, tout à coup, on peut vraiment relire certaines personnes à la lumière des autres, puis voir des grandes conversations s'établir en littérature québécoise.
Ce qu'on retrouve aussi chez certaines maisons d'édition, par exemple la vôtre chez Quartanier, qui a réussi au fil des années à avoir une étiquette d'une certaine façon, même si évidemment chaque auteur a une voix individuelle. Il y aura quand même une parenté d'esthétique jusqu'à un certain point dans ces auteurs qui se côtoient.
Oui, absolument. Donc, ça, c'est un bon exemple, c'est-à-dire autour du Quartanier. Puis c'est drôle parce que moi, quand je suis arrivé au Quartanier à l'époque, le Quartanier a d'abord commencé comme maison de poésie, comme poésie plutôt formaliste, expérimentale, avant d'élargir au roman, toujours formaliste, expérimental, avant d'élargir un roman à la nord-américaine, à l'anglo-saxonne, dans la collection Polygraphe où j'ai publié Arvida. Donc, au départ, moi, la première fois que j'avais parlé de mes textes à Éric Larochelière du Quartanier, je pensais pas publier là parce que je pensais pas avoir ma niche, là. Et à un moment donné, on a élargi ça, et je pense que c'est ce qui est payant aujourd'hui, c'est que le Quartanier s'est toujours bâti autour d'auteurs. Ils cherchent pas des livres, ils cherchent des gens pour faire plusieurs livres, pour vraiment former une écurie, littéralement. Et donc, c'est ce qui finit par devenir intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui vont suivre. Bon, par exemple, Geneviève Peterson, qui est comme par hasard mon épouse, Raymond Bock avec Atavisme. Il y a des liens très, très forts, là, au niveau thématique, à faire représentation de la région, représentation plutôt d'une historicité très, très forte. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a des croisements à faire aussi avec les plus formalistes, quand on regarde Plamondon, Éric Plamondon, Alain Farrand, on est des grands lecteurs, les trois, les uns des autres. Donc, malgré les différences, il y a des transactions qui se font. T'sais, moi, Alain Farrand m'a dit, par exemple, j'ai fait Pourquoi Bologne, entre autres, j'ai mis des trucs beaucoup plus sentis, beaucoup plus personnels, parce que j'avais lu Arvida, parce que j'avais trippé sur le côté des fois plus confessionnel que tu fais littéralement. Ça fait que là, ça devient fascinant parce que là, on a un roman presque à la Aquinien, très, très expérimental, qui s'inspire de mes nouvelles, pas nécessairement plus traditionnelles. Il y a un côté très rugueux des fois dans Arvida, mais qui est complètement dans un autre contexte. Ça fait que ça, ces conversations-là, à un moment donné, vont être intéressantes à détailler. Il se passe un bouillonnement qui est pas vraiment pas restreint au cartonnier, mais qui se passe vraiment en toute une génération d'écrivaines et d'écrivains.
Tout à fait. La génération spontanée en littérature, comme dans toutes les formes artistiques, ça ne fonctionne pas. Là.
Non.
Tout le monde est influencé par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il a vécu là, d'une certaine façon.
Oui, puis je pense que ça se fait vraiment en conversation, comme je le disais. C'est-à-dire, des fois, on est à la fois dans une ouverture et dans une communauté très forte, c'est-à-dire et la littérature québécoise qui se redécouvre elle-même, comme je le disais, qui se redécouvre, tu sais, un corpus contemporain où tout à coup on voit des lignes de force apparaître, des communautés d'esprit ou des communautés vraiment physiques apparaître, et à l'inverse dans une littérature québécoise qui assume beaucoup ses influences extérieures. On n'est pas en train de se dire juste, on assume beaucoup. Moi, je vais sortir Cormac McCarthy, je vais sortir même Stephen King dans mes lectures de jeunesse. Je suis capable d'assumer ça à côté de l'influence hébertienne dans mon cas, par exemple. Oui, j'ai des influences très québéco-québécoise. Ben, dans le cas de Farrand, on dirait, bon, par exemple, très Hubert Aquin, en même temps très proche de Cadio, Quintane, donc les auteurs français, plus de la génération POL, tout ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour moi qui circule. On n'est ni dans la négation d'une historicité québécoise, mais ni dans quelque chose qui veut absolument être une note de bas de page à Gaston Miron ou à Ferron, dire on reste dans une traque vraiment, vraiment québéco-nationalo-rigoureuse.
Alors, on va souhaiter qu'en 2015, vous preniez une année sabbatique en tant que porte-parole, finalement, de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.
Ouais.
Le temps de publier votre deuxième roman ou une nouvelle, on verra sous quelle forme ce sera.
Absolument.
Et donc, au plaisir de vous relire.
Ben, à très bientôt et à la prochaine fois.
Merci beaucoup.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était les actualités littéraires dans le monde francophone. Une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire.